l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Quatorzième épisode.
Ce qui arriva à Don Quichotte en entrant à Barcelone et de l'aventure qui affligea le plus notre chevalier de toutes celles qui lui étaient arrivées jusqu'alors. Le sage Sidi Ahmed Ben Engeli raconte que la matinée était fraîche et promettait une belle journée quand Don Quichotte quitta l'auberge après s'être informé du plus court chemin pour atteindre Barcelone sans passer par Saragosse. Car il était bien décidé à faire mentir l'historien ignorant qu'il avait tant calomnié. Après une dizaine de jours, pendant lesquels il ne leur arriva rien qui vaille d'être raconté, Don Quichotte et Sancho Panza arrivèrent à la nuit sur la plage. C'était la veille de la Saint-Jean. Ils attendirent le lever du jour et regardèrent autour d'eux. C'était la première fois qu'ils voyaient la mer. Elle leur parut très grande et beaucoup plus large que les lagunes de Ruidera qu'ils avaient visitées dans la Manche.
Le phare, l'étoile, le guide de la chevalerie errante. Bienvenue au chevalier Don Quichotte de la Manche. Non pas le faux, le fictif, l'apocryphe qu'on nous a dépeint récemment dans une histoire mensongère, mais le seul, le vrai, le légitime, celui que nous décrit Sidi Ahmed Ben Engeli. Illustre historien.
Il n'y a pas de doute, ces gens-là nous ont reconnus.
Ah, je parie qu'ils ont lu notre histoire et aussi celle que l'Aragonais vient de faire imprimer.
Sachez, monsieur le chevalier, que nous sommes de grands amis de Don Juan et de Don Jeronimo, deux gentils hommes que vous avez croisés il y a quelques jours. Ils nous ont avertis de votre probable arrivée et depuis, nous vous guettions avec impatience. J'espère que vous voudrez bien vous joindre à nous.
Avec plaisir, messieurs. Conduisez-moi où vous voudrez, messieurs.
La troupe entière entoura le maître et le valet, et au son des flûtes et des tambours, ils s'acheminèrent ensemble vers la ville. Bientôt, ils arrivèrent en grande escorte à la maison de leur guide, qui était fort belle et en tout point digne d'un riche gentilhomme. L'hôte de Don Quichotte se nommait Don Antonio Moreno. Il avait convié ce jour-là quelques amis qui firent mille courtoisies à Don Quichotte et le traitèrent avec tous les égards dus à sa profession. Notre chevalier errant, fier et enorgueilli, ne se sentait pas de joie. Quant à Sancho, il dit tant de bons mots que tous les domestiques de la maison et tous ceux qui l'écoutaient étaient suspendus à ses lèvres.
Nous avons lu quelque part, mon bon Sancho, que vous êtes à ce point friand de blanc manger et de boulettes que si l'on vous en sert de trop... Vous les gardez dans votre poche pour le lendemain ?
Non, monsieur, c'est pas vrai. Je suis quand même plus propre que gourmand. Et mon maître Don Quichotte, ici présent, peut vous dire qu'avec une poignée de noix ou de blanc, il nous arrive de tenir lui et moi pendant 8 jours. Bien sûr, je ne suis pas du genre à me faire prier. Je mange ce qu'on me donne et je prends les choses comme elles viennent. Mais celui qui a prétendu que je suis un gros mangeur et un malpropre n'est lui-même qu'un menteur. Et je le traiterais bien d'un autre nom si je ne craignais pas d'offenser les oreilles des messieurs respectables assis autour de cette table.
Je puis vous assurer, mes amis, que la frugalité et la propreté de Sancho mérite d'être gravé dans le bronze pour qu'il en reste à jamais le souvenir dans les siècles futurs. Certes, lorsqu'il a faim, il peut paraître glouton, car il se jette sur la nourriture et mâche des deux côtés à la fois. Non, mais il est toujours d'une parfaite propreté.
Ah.
La conversation se prolongea tard dans la nuit. Après quoi, les convives prirent congé de Don Antonio et de ses hôtes, et ces derniers regagnèrent leur chambre. Le lendemain, il prit à notre chevalier l'envie de se promener à travers la ville, à pied, et sans cérémonie, car il craignait, s'il allait à cheval, d'être assailli par les enfants. Il sortit donc avec Sancho et deux domestiques que lui donna Don Antonio. Il passait dans une rue lorsque, levant les yeux, il vit une inscription sur une porte.
« Ici, on imprime des livres. » Entrons, Sancho. Je n'ai encore jamais vu d'imprimerie et suis très curieux d'en connaître une. »
Don Quichotte entra donc avec toute sa suite et observa comment l'on composait, l'on tirait, l'on corrigeait sur l'épreuve dans un coin, sur le plomb dans un autre, bref, tous les procédés et instruments que l'on peut trouver dans une imprimerie d'importance. Il allait d'une casse à l'autre, en demandant à chaque ouvrier de lui dire ce qu'on y faisait. Il écoutait les explications, s'étonnait de tout.
Lumière de l'âme. Voilà le genre d'ouvrage qu'il faut publier, quoi qu'il en existe beaucoup sur le sujet. Le nombre de pêcheurs est de nos jours si élevé, il n'y aura jamais assez de lumière pour éclairer leurs ténèbres.
Dites-moi, l'ami, quel est le titre de ce livre ?
Eh bien, c'est la deuxième partie de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha, composé par un monsieur qui se disait natif de la ville de Tordesillas.
J'ai déjà entendu parler de ce livre. Et par ma foi et sur ma conscience, je pensais qu'il avait été brûlé et réduit en cendres pour toutes les absurdités qu'il contient. Mais il ne perd rien pour attendre, hein. Car les histoires imaginaires sont d'autant plus divertissantes et dignes d'intérêt qu'elles se rapprochent de la vérité ou de la vraisemblance. Et les histoires vraies, d'autant plus parfaites qu'elles sont plus véridiques. Sortons, Sancho.
Là-dessus, il sortit de l'imprimerie en manifestant une certaine irritation. Le même jour, alors que Don Quichotte se promenait sur la grève armé de pied en cap, il vit venir vers lui un chevalier également armé de toutes pièces, avec un bouclier sur lequel était peinte une lune resplendissante.
« Ô illustre chevalier Don Quichotte de la Manche, toi dont on ne louera jamais assez les prouesses, sache que je suis moi-même le chevalier à la blanche lune dont les exploits inouïs sont sans doute parvenus jusqu'à toi. Je viens, mettant à l'épreuve la force de ton bras, me mesurer avec toi en combat singulier afin de t'obliger à reconnaître que la dame de mes pensées est incomparablement plus belle que ta dulcinée du Toboso. Si tu le reconnais sans réserve, tu t'éviteras la mort et tu m'éviteras la peine de te la donner. Si tu choisis de te battre et que je suis vainqueur, je ne demande qu'une satisfaction. C'est que tu déposes les armes et qu'au lieu de continuer à chercher des aventures, tu retournes dans ton village où tu resteras une année entière sans toucher à une épée, en menant une vie paisible et tranquille, comme il convient à ta prospérité et au salut de ton âme. Si au contraire, je suis vaincu, je resterai à ta merci. Mes dépouilles, armes et cheval t'appartiendront, et à ta gloire viendra s'ajouter celle que j'ai conquise par mes hauts faits. Vois ce que tu choisis, et réponds-moi sans attendre, car je n'ai que la journée d'aujourd'hui pour expédier cette affaire.
Chevalier à la blanche lune, dont j'ignorais ici les exploits, je jurerais que vous n'avez jamais vu l'illustre Dulcinée. Si vous l'aviez seulement aperçue, vous ne vous seriez point hasardé à pareille entreprise, car vous sauriez qu'il n'y a pas, qu'il ne peut y avoir de beauté comparable à la sienne. Je ne dirais donc pas que vous avez menti, mais seulement que vous êtes dans l'erreur. Et j'accepte votre défi sans attendre, afin de ne pas dépasser le délai que vous vous êtes imparti. De vos conditions, j'en accepte une seule, celle qui stipule que passe au compte de la mienne la renommée de vos exploits. Ne les connaissant pas et ne sachant ce qu'ils valent, je me contente des miens, que je connais pour ce qu'ils sont. Prenez donc autant de champs que vous voudrez, je ferai de même. Et que Saint-Pierre bénisse celui que Dieu aura désigné.
On avait aperçu de la ville le chevalier à la blanche lune en conversation avec Don Quichotte. Et on était allé prévenir le vice-roi. Ce dernier prit aussitôt le chemin de la plage, suivi de Don Antonio et d'une nombreuse compagnie. Ils arrivèrent au moment où Don Quichotte tournait bride pour prendre le champ nécessaire. Voyant que les chevaliers s'apprêtaient à fondre l'un sur l'autre, le vice-roi s'interposa.
Quelle est, messieurs, la cause de ce combat imprévu ?
Votre Altesse, il s'agit d'une question de prééminence de beauté.
Don Antonio, connaissez-vous ce chevalier-là ?
Pas le moins du monde, Votre Altesse.
Il ne peut s'agir que d'une farce.
Messieurs les chevaliers, s'il n'y a d'autre solution que d'avouer ou mourir, Don Quichotte veut en découdre. Et si vous, monsieur, n'en voulez pas démordre, à la grâce de Dieu, vous avez le champ libre.
Nos deux chevaliers, après avoir remercié courtoisement le vice-roi de la permission qu'il leur donnait, reprirent du chant. Puis, sans qu'aucune trompette ou autre instrument guerrier n'eût donné le signal de l'attaque, ils tournèrent bride en même temps. Mais le coursier du chevalier à la blanche lune était plus rapide que Rocinante. L'inconnu avait déjà parcouru les deux tiers du champ quand il atteignit Don Quichotte. Il le heurta avec une telle violence, sans toutefois le toucher avec sa lance, qu'il avait paru lever exprès, qu'il envoya fort rudement homme et cheval par terre. Il se jeta aussitôt sur Don Quichotte et lui mit la pointe de sa lance sur la visière.
Vous êtes vaincu, chevalier. Il vous en coûtera la vie si vous ne faites pas l'aveu qu'exigent les conditions de notre combat.
Dulcinée est la plus belle femme du monde et moi le chevalier le plus infortuné de la terre. Mais il ne sera pas dit que, dans un moment de faiblesse, j'aurai trahi cette vérité. Pousse ! Pousse ta lance, chevalier, et ôte-moi la vie, puisque tu m'as ôté l'honneur.
Non, je n'en ferai rien. Que la gloire et la beauté de Dulcinée du Toboso resplendissent comme elle le mérite. Tout ce que je demande, moi, c'est que l'illustre Don Quichotte se retire dans son village pendant un an, ou tout le temps que je lui commanderai, ainsi que nous en sommes convenus avant de combattre.
Tant qu'on ne me demande rien qui puisse porter préjudice à madame, je m'exécuterai pour le reste, en bon et loyal chevalier.
Satisfait de cette promesse, le chevalier à la blanche lune tourna bride et, après avoir salué le vice-roi d'une inclination de tête, repartit au petit galop vers la ville.
Don Antonio, suivez cet homme et sachez qu'il est.
Bien, Votre Altesse.
On releva Don Quichotte et on lui ôta sa visière. Il était pâle, trempé de sueur. Rocinante, aussi mal en point que son maître, ne parvenait plus à se remettre sur ses jambes. On installa notre chevalier dans une chaise à porteurs que le vice-roi avait envoyé chercher, et on le ramena à la ville. De son côté, Don Antonio suivit le chevalier à la blanche lune, jusqu'à ce que ce dernier trouva refuge dans une hôtellerie au cœur de la ville.
Je sais, monsieur, ce qui vous amène. Vous désirez savoir qui je suis ? Et comme je n'ai aucune raison de vous le cacher, je vais vous le dire, sans altérer en rien la vérité. Apprenez, monsieur, que l'on me nomme le bachelier sans son Carrasco. Je suis du même village que Don Quichotte de la Manche, dont la folie et les absurdités éveillent la compassion de tous ses voisins et amis. Mais je crois bien que c'est à moi qu'il fait le plus de peine. Or, comme je pense que la seule chose qui puisse le guérir, c'est de rester tranquille et de ne pas bouger de son village ni de sa maison, j'ai cherché un moyen de l'obliger à rentrer au pays et j'ai eu l'idée du combat auquel vous avez assisté. Je connais assez son respect des lois de la chevalerie errante pour être sûr qu'il tiendra la parole qu'il a donnée. Voilà, monsieur, ce qu'il en est, et rien de plus. Je vous supplie de ne pas dire à Don Quichotte qui je suis, pour que mes louables efforts ne soient pas perdus et que cet homme puisse recouvrer la raison qu'il a en parfait état dès qu'elle n'est plus dérangée par les sornettes que contiennent les romans de chevalerie.
Hélas, monsieur, Dieu vous pardonne le tort que vous nous faites à tous en voulant rendre sage le plus divertissant des fous qu'il y ait jamais eu. Tout le profit que l'on pourra tirer de sa sagesse n'égalera jamais le plaisir que nous donnent ses bizarreries. Toutefois, je me tairai et ne lui dirai rien.
Sanson Carrasco prit congé de Don Antonio et quitta la ville le jour même pour retourner dans son village. Tandis que Don Antonio rendit compte au vice-roi de ce qu'il avait appris. Don Quichotte, quant à lui, garda le lit pendant 6 jours, tout contrit et de fort méchante humeur, ressassant les tristes circonstances de sa défaite.
Allons, monsieur, un peu de nerfs. Vous devriez être content et rendre grâce au ciel qu'il vous ait permis de vous en tirer sans même une côte cassée. Et puis, comme vous le savez mieux que moi, tel est prix qu'il croyait prendre. Et tel rivendredi, dimanche pleurera. Alors rentrons chez nous, au lieu de passer notre temps à chercher des aventures au bout du monde. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, vous verrez que c'est moi le grand perdant dans cette affaire, même si c'est vous le plus mal en point. Je reste avec l'envie d'être comte, mais ça ne pourra jamais arriver si vous vous abandonnez l'idée d'être roi en abandonnant le métier de chevalier errant. Et voilà comment tous mes espoirs s'en vont en fumée.
Voyons, Sancho. Tu sais bien que ma retraite forcée ne doit durer qu'un an. Je reprendrai aussitôt ma glorieuse profession, et cette fois, je n'aurai aucun mal à gagner un royaume et à te gratifier d'un titre de comte.
Que Dieu vous entende, monsieur.
Une semaine plus tard, Don Quichotte et Sancho reprirent la route. Le premier désarmé en habit de voyage, l'autre à pied parce que le baudet portait les armes sur son dos. En sortant de Barcelone, Don Quichotte repassa par le lieu de sa défaite.
C'est ici que j'ai livré mon dernier combat. C'est ici que mon destin adverse, et non mal acheté, m'a ravi la gloire que j'avais conquise. Ici que le sort s'est joué de moi et que s'est obscurci l'éclat de ma renommée. Ici, enfin, que la chance m'a abandonné à jamais.
Le propre d'un grand cœur, monsieur, c'est de savoir se résigner dans le malheur et se réjouir dans la prospérité. D'ailleurs, j'ai entendu dire que celle qu'on appelle la fortune n'est qu'une femme écervelée et capricieuse, et qu'en plus, elle est aveugle. Comme elle ne voit pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas qui elle renverse, ni qui elle élève.
Te voilà bien philosophe, Sancho. Je me demande d'où te vient tant de sagesse. Tout ce que je puis te dire, c'est que rien en ce monde de bon ou de mauvais n'arrive par hasard, mais parce que le ciel en a disposé ainsi. De là vient le dicton « Chacun est l'artisan de sa destinée ». Je l'ai été de la mienne en ne montrant pas une prudence suffisante. Ma présomption m'a coûté cher. Allons. Marche à présent, Sancho, et rentrons chez nous faire une année de noviciat. Nous puiserons dans cette retraite de nouvelles forces pour retourner au métier des armes que je n'abandonnerai jamais.
Tout en causant de la sorte, ils poursuivirent leur route. Ils cheminaient depuis quelque temps lorsque Don Quichotte se tourna vers son valet.
Sancho, il me vient une idée. Si nous devenions bergers, au moins pendant le temps que durera ma retraite, je t'achèterai quelques brebis et toutes les choses nécessaires à la profession. Nous nous ferons appeler, moi, le berger Quichotin, et toi, le berger Pansinet. Et nous irons à travers les prés et les bois, chantant ici un couplet, là une élégie, nous désaltérant à l'eau d'une source cristalline.
Pardieu, voilà exactement le genre de vie qui me plaît et qui me va comme un gant. Attendez que le bachelier Carrasco et maître Nicolas le barbier l'apprennent. Vous verrez qu'ils voudront devenir bergers avec nous. Et qui sait s'il ne prendra pas fantaisie à monsieur le curé de faire partie du lot, lui qui aime tellement mener joyeuse vie.
Excellente idée. Ah, Sancho, imagine quelle vie sera la nôtre.
Oh, moi qui ai toujours eu si peu de chance, j'arrive pas à croire que le jour viendra où je ferai un si beau métier. Ah, vous verrez les jolies cuillères que je vais vous tailler quand je serai berger. Je vous en ferai des fromages et des bons desserts et aussi des guirlandes et toutes sortes d'amusettes pastorales.
À présent, Sancho, et puisque le soir tombe, écartons-nous de la grande route pour trouver un endroit où passer la nuit. Demain, nous verrons bien ce que Dieu nous réserve.
Ils s'écartèrent donc, soupèrent tard et mal, au grand mécontentement de Sancho qui trouvait par trop misérable la vie que menaient les chevaliers errants. Mais il se disait aussi qu'il ne peut pas faire tout le temps jour ou tout le temps nuit. Et il passa celle-là à dormir, tandis que son maître la passait à veiller, ses soucis l'empêchant de trouver le repos. Don Quichotte finit par réveiller son valet.
Sancho. Sancho. Ton heureux caractère, Sancho, ne cessera jamais de m'étonner. On croirait que tu es fait de marbre ou de bronze, et qu'en toi il n'y a ni mouvement ni sentiment. Moi, je veille quand tu dors. Je pleure quand tu chantes. Je tombe d'inanition quand tu te gaves à ne plus pouvoir remuer ni souffler. Un bon domestique se devrait pourtant de compatir aux peines du maître, de partager ses émotions, ne fût-ce que par bienséance.
Oh, écoutez, monsieur, je ne suis pas un moine pour me lever en pleine nuit. Alors laissez-moi dormir. Tant que je dors, je n'ai ni crainte, ni plaisir, ni espoir, ni souci. Béni soit celui qui a inventé le sommeil. Manteau qui couvre toutes les pensées des hommes. Aliment qui supprime la faim. Breuvage qui étanche la soif. Feu qui garantit du froid. Froid qui tempère la chaleur.
Bref. Monnaie universelle avec laquelle on peut tout acheter.
Balance ou pèse d'un poids égal le berger et le roi. Le sot et le sage. Le sommeil n'a qu'un seul défaut à ce qu'on dit, c'est qu'il ressemble à la mort. Et c'est vrai qu'entre un dormeur et un mort, il n'y a pas grande différence.
Voilà bien la première fois, Sancho, que je t'entends parler avec autant d'élégance. Je finirai par croire ce proverbe que tu cites souvent. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es.
Ils en étaient là de leur conversation, lorsqu'ils entendirent un bruit sourd, accompagné d'un violent fracas qui emplissait toute la vallée. Don Quichotte se dressa et mit la main à l'épée. Sancho se coula sous son baudet en se faisant un rempart à droite et à gauche avec le paquet des armes et avec le bas de l'animal. D'instant en instant, le bruit grandissait et se rapprochait. C'étaient des marchands qui, en pleine nuit, menaient vendre à une foire plus de 600 cochons. Et ces bêtes faisaient avec leur grognement un tel vacarme que Don Quichotte et Sancho en furent assourdis, sans toutefois deviner ce que cela pouvait être.
Monsieur, prêtez-moi votre épée. J'ai l'intention de tuer une bonne demi-douzaine de ces messieurs impertinents.
Non, Sancho, laisse-les tranquilles. Cet affront est la punition de mon péché, le châtiment du ciel. C'est justice qu'un chevalier errant vaincu soit mangé par les chacals, piqué par les guêpes, piétiné par les pourceaux.
Je suppose que c'est aussi un châtiment du ciel que les écuyers des chevaliers errants vaincus soient piqués par les mouches, mangés par les poux et tenaillés par la faim. Si les écuyers étaient les fils des chevaliers errants qu'ils servent, ou au moins des parents proches, je trouverais normal qu'ils soient punis pour les fautes de leur maître jusqu'à la quatrième génération. Mais qu'est-ce que les Pansa ont à voir avec les Quichottes ?
Enfin, en attendant, recouchons-nous et dormons le peu qu'il nous reste de nuit.
À demain.
Dors, Sancho. Toi qui es né pour dormir. Moi, je resterai éveillé.
À suivre, l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Un feuilleton adapté par Juliette Eman.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Et publié aux éditions du Seuil.
Conseillère littéraire, Catel Guillot.
Quatorzième épisode.
Avec
Daniel Koenigsberg,
Bernard Ménez,
Laurent Ferraro,
Igor Medjiski,
Dominique Daguier,
Stéphane Valency,
Tariq Betahar
et Lio Test.
Musique originale, Sébastien Schuller.
Bruitage, Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage,
Benjamin Vignal,
Mathieu Leroux.
Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet.
Réalisation, Cédric Ossire.